Les podcasts d'AFDS.TV, les suppléments d'Aux Frontières des Séries, une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les entretiens d'AFDS, Alexandre Marlier.
Bonjour Marie, pour commencer cette interview, j'aimerais te demander comment tu t'es retrouvée à présenter Récréa 2.
Alors en fait, l'histoire, c'est que moi j'étais élève chez Annie Fratellini, à l'école du cirque d'Annie Fratellini, où j'étais jongleuse plutôt, parce que j'avais eu un problème de fracture à l'astragale, donc j'ai un peu abandonné l'acrobatie au profit du jonglage, qui était de toute façon une vraie passion. Et puis, comme j'étais plutôt mignonnette, on va dire, le jour où il y a une équipe de télévision qui est venue faire un reportage sur les élèves de l'école du cirque, on m'a mis devant, on m'a montré où était la caméra, comment fallait que je fasse pour jongler dans la caméra, et voilà, j'ai lié un petit peu sympathie avec un des cadreurs qui m'a dit, mais tu sais, régulièrement, Jacqueline Joubert fait des castings parce qu'elle recherche régulièrement des jeunes talents. Tu devrais, je suis sûre que tu as tout à fait le profil. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai envoyé mon dossier, en même temps que j'envoyais mon dossier pour le bac, j'ai envoyé mon dossier pour passer un casting devant Jacqueline Joubert. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, et puis en septembre, j'ai reçu une convocation pour passer une audition devant Jacqueline Joubert. Et j'étais au milieu de, on était nombreuses, quoi, peut-être 25, 30 jeunes garçons et jeunes filles, à peu près du même âge que moi. Et Jacqueline a tout de suite craqué sur moi, et c'était une belle rencontre tout de suite, quoi. J'ai senti qu'on était proches, qu'on se ressemblait, qu'il y avait des petits points communs toutes les deux. C'était assez bienveillant. Des fois, on se comprenait pas, mais elle a toujours été bienveillante pour moi, malgré le fait que des fois je sois un peu vive, comme on peut l'être à 18, 19 ans. Et j'étais un petit volcan à l'époque. Moi, je voulais pas chanter. Et il a fallu que Jacqueline Joubert se batte un petit peu et moi monte les oreilles et les bretelles avec pour me dire, Marie, faut que tu chantes. C'est pour toi, t'es chanteuse. Je dis, mais non, je suis pas chanteuse. Enfin bon. Et voilà, quand on a 18 ans, 19 ans, on est des fois un peu trop vif et pas vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Et moi, je voulais catégoriquement pas chanter. Moi, j'étais comédienne, j'étais jongleuse, mais pas chanteuse, quoi. Je voulais pas être chanteuse.
Comment s'est déroulée cette première session d'enregistrement en studio?
Plutôt très bien. C'est-à-dire que très vite, j'avais des bons réflexes de studio. Tout le monde était plutôt agréablement surpris et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pu enregistrer d'autres génériques. C'était plutôt agréable comme souvenir et j'ai trouvé ça plutôt très facile. Et curieusement, j'ai eu d'autres expériences après, dont Bibi Fock qui a été une vraie catastrophe.
Bibi Fock, une vraie catastrophe, pourtant elle reste un des standards des génériques des dessins animés de nos jours.
J'ai vraiment détesté cette séance d'enregistrement et je peux le dire avec le sourire parce que je suis en bon terme avec le compositeur qui s'arrachait les cheveux et il a toujours su que voilà, j'en avais un peu bavé des ronds de chapeau pour sortir mes petites notes sur Bibi Fock. La veille, j'avais enregistré Clémentine et ça avait été un enregistrement magnifique. Un des plus beaux souvenirs d'enregistrement que j'ai eu à l'époque. Et Clémentine, c'était merveilleux. C'était fantastique, merveilleux, une ambiance extraordinaire, l'arrangeur était adorable, le mec du son aussi, la chanson tellement jolie, les arrangements magnifiques, les chœurs, on a ouvert le champagne à la fin, enfin c'était que de l'amour, quoi. Et Bibi Fock, c'était tout le reste. Et moi, à l'époque, j'ai parié plus sur Clémentine que sur Bibi Fock. Le succès de Bibi Fock, c'était pas du tout ce que je pensais, quoi.
On le sait, tu as donc enregistré plusieurs génériques d'animés. Est-ce que tu as regardé ces séries lors de leur diffusion?
Alors, là où c'est en dichotomie totale avec vous et nous, c'est que comme on travaillait énormément, on n'avait pas le temps de regarder et de suivre les épisodes qu'on présentait et dont on était un petit peu les égéries, parce que on travaillait vraiment 4 jours par semaine et c'était du 11h du matin jusqu'à minuit, quoi. Quand on était en direct, on pouvait pas se poser devant les retours et regarder les génériques et les dessins animés. Et quand on enregistrait, on enquillait toutes les semaines. Donc, de temps en temps, on arrivait, quand on travaillait pas, à regarder un épisode ou deux. On avait bien évidemment les synopsis qui nous permettaient de savoir de quoi il était question. Mais j'ai jamais pu suivre un épisode, une série, du premier épisode jusqu'au dernier, malheureusement.
C'est encore le cas aujourd'hui?
C'est-à-dire que maintenant, j'aimerais bien voir Clémentine, par exemple, mais ça passe nulle part.
En 1987, Dorothée quitte Récréa 2 pour créer le club Dorothée sur TF1. Est-ce que tu as ressenti cela comme une chance pour toi ou comme une mise au second plan?
Non, au contraire, d'un coup, j'ai été projetée au premier plan. Parce que d'un coup, j'ai pris avec Charlotte, on nous a donné la responsabilité d'être les deux têtes principales de l'émission. Au départ de Dorothée, d'un coup, il a fallu assumer les directs, il a fallu assumer le mercredi après-midi. Tout le temps où Dorothée était dans l'émission, c'était Dorothée le mercredi. Et toute l'équipe, hein, c'était les jours de la semaine. Et quand Dorothée est partie, d'un coup, il a fallu qu'on reprenne les rênes de la globalité de l'émission, continuer la semaine, mais aussi faire le mercredi matin, le mercredi après-midi.
Donc pour rappel, Dorothée gérait Récréa 2 le mercredi, les autres émissions étaient gérées par une autre équipe.
Voilà, c'est ça. Il y avait l'équipe des Petitots, comme je nous appelais. Il y avait Charlotte, il y avait Bertrand Boucheroy, il y avait Alain Chauffour. Et nous, on s'occupait de la semaine. Et puis le mercredi, c'était Dorothée, Jackie, c'était les vieux de la vieille qui étaient là et qui maintenaient la présence à l'antenne le mercredi matin et le mercredi après-midi. Le matin était en direct, l'après-midi aussi, mais avec des plateaux, certains plateaux qui étaient au préalable enregistrés. Entre autres, les mini-comédies. Ça, c'était bon enregistré à l'avance puisque c'était des comédies. Alors on était d'un coup, on s'occupait de faire une comédie sur le Far West. Alors il y avait des chevaux, il y avait les costumes qui allaient avec, ou alors c'était l'époque de la prohibition aux États-Unis, donc d'un coup on était habillés à la Louise Brooke avec les paillettes, les machins, on chantait. Enfin, et ça, Jacqueline était très fière de ça aussi, parce que c'était de qualité, parce qu'on s'amusait, parce que voilà.
La qualité du programme Récréa 2 était donc quelque chose de crucial
pour Jacqueline, ouais. Et elle disait toujours, même s'il y a que 0,3% des enfants qui aiment la musique classique ou qui aiment la littérature, je veux m'occuper d'eux. Donc il y avait Bleu comme une orange, il y avait, je me souviens plus du titre du petit programme sur la musique classique, mais il y avait aussi, il y avait pour la musique classique, il y avait pour les enfants sourds et malentendants, mes mains ont la parole. C'est-à-dire que Jacqueline considérait que les enfants étaient multiples, et elle a raison, et qu'il y avait de tout, et qu'il fallait s'occuper d'un maximum de catégories, même si c'était pas une grosse partie de la population qui regardait Récréa 2. Et ça aussi, elle en était très fière.
Quelle a été ta réaction à l'annonce de la fin de Récréa 2?
Quand Récréa 2 s'est terminé en 89, moi j'étais déjà très contente que ça s'arrête parce qu'on avait travaillé tellement durement et les deux dernières années ont été difficiles parce qu'il y avait, d'un coup, la télévision changeait complètement de d'état d'esprit tout simplement. Moi j'avais connu la télévision très familiale, voilà. Encore un résidu de Pierre Tchernia, une télé proche des gens et voilà. Et d'un coup, avec l'arrivée de TF1, c'était la grosse artillerie d'un seul coup et c'était à tout prix, c'était le marteau piqueur, c'était le rouleau compresseur, c'était et d'un coup, on nous parlait des chiffres, on nous parlait d'audimat, on nous parlait de look, et qu'il fallait faire ci, il fallait pas faire ça, qu'il fallait s'habiller comme ci, pas comme ça, et qu'à TF1 ils décident. Et d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette télé qui nous ressemble en rien du tout à ce qu'on a, nous, envie de développer, quoi. Et c'était d'un coup très, très difficile de faire face au rouleau compresseur de TF1. Donc, je suis restée, 2 ans, et tous les autres de Récréa 2, aux commandes de Récréa 2, avec Jacqueline Joubert, bien évidemment, capitaine de navire. Mais c'était effroyablement difficile. Et puis quand Jacqueline Joubert a été gentiment remerciée par la direction, toute l'équipe a dégagé. Donc moi j'étais vachement contente que ça s'arrête. Parce que d'un coup je pouvais faire tous les trucs que je pouvais pas faire non plus. Je pouvais envisager d'avoir un bébé, je pouvais changer de couleur de cheveux, je pouvais voir aussi pourquoi j'aimais ce métier, tu vois. Parce que d'un coup, j'avais une liberté qui est nécessaire quand on est jeune pour savoir... Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier que tu veux faire, si c'est plus la chanson, la comédie. Pendant des années avec Récréa 2, c'est comme si j'avais fait pendant des années de l'aviron, et puis à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que j'aime l'aviron, pourquoi je fais de l'aviron, peut-être que moi, mon sport favori, c'est le basketball, tu vois. Donc j'étais super contente que ça s'arrête.
Est-ce qu'il y a réellement eu une rivalité entre Dorothée et toi, comme en avait témoigné la chanson de la série Marotte et Charlie ?
Écoute, moi j'ai jamais voulu l'écouter parce que tout le monde m'a dit, écoute, c'est trop bête et trop méchant, donc ça vaut même pas la peine. Donc je sais même pas de quoi ça parle. On était atterrés quand on a vu Jackie et Simpson Jones je sais même pas comment appeler ça. On était atterrés on comprenait pas. On comprenait pas l'intérêt. Enfin, c'était tellement à l'opposé de la politique de Jacqueline et de sa manière de parler aux enfants, de les respecter, de leur apporter aussi de l'enrichissement. C'était quand même une des grandes devises de Jacqueline. C'était apprendre et distraire en même temps. Et c'est vrai que Marotte et Charlie, mais d'un coup, on était mais atterrés tous en disant, mais ils ont rien compris. Enfin, c'est d'un coup, c'était, il y avait pour nous, il y avait Dorothée du temps de Récré à deux, et après, il y avait Dorothée une fois qu'elle était sur TF1, et ça n'avait plus rien à voir. Et c'était à l'opposé, mais à des années-lumière de tout ce que Jacqueline avait nourri Dorothée.
La Dorothée que tu as côtoyée était-elle celle qu'on a connue sur TF1 ?
Alors ça, c'est encore une chose que vous savez pas et que je commence un peu à dire parce que vous êtes grand et que vous êtes capable de comprendre certaines choses. C'est que pour vous, on était une grande famille et ça a été vrai pour certains groupes entre nous. Mais Dorothée, si on a parlé ensemble trois fois, c'est bien tout. C'est-à-dire que Dorothée, elle était le mercredi, point barre. Et on se voyait jamais. Et le peu qu'on se voyait, c'est vrai que moi, j'étais une minot d'à peine 18 ans, elle en avait 33 je crois à l'époque. C'est vrai que qu'est-ce que tu veux qu'une femme de cet âge parle à une prépubérienne de 18 ans, toi, parce qu'en plus à l'époque 18 ans ça peut correspondre à du 16 ans actuel, tu vois, et encore quand je suis gentille. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas grand chose à se raconter, mais j'étais super fière. Mais Dorothée, je l'ai jamais vue, très peu familiale. Moi Dorothée, je l'ai jamais vue. Moi, mon noyau, c'était plus Alain Chauffour, Charlotte, Bertrand Boucheroy. Alors maintenant, la similitude avec Dorothée, c'est que moi, j'étais la seule, et je me rends compte que seulement maintenant, j'étais la seule finalement à chanter les génériques avec Dorothée. Alors je sais que je commence à entendre des discours comme quoi Dorothée a très mal vécu le fait que j'arrive dans l'émission dès l'instant où j'ai commencé à chanter et qui me faisait faire un disque d'or. Mais à l'époque, moi, je me rendais pas compte du tout.
Merci beaucoup, Marie, pour le temps que tu nous as consacré lors de cette interview. On rappelle que toute ton actualité est disponible sur www.mariedauphin.com et que ton dernier album Souvenir Savon y est disponible à la vente.
Les podcasts d'AFDS.TV aux frontières des séries.